Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, c'est absolument incroyable, ça y est, le lundi 2 août, il est 8h30 et au programme de cette matinale, nous sommes en direct et en plateau avec Quentin, bonjour.
Et salut à vous, salut à toi.
Merci d'avoir accepté l'invitation, un peu à l'arrache, la semaine dernière, ce week-end et ce matin, je te renvoie un message, excellent, merci beaucoup d'être là. Le Mordor Fest, c'est les 13 et 14 août prochains, ce sera à Nazbinal, on en parle dans un instant. Je ne l'attendais pas. Voilà, il me fait des blagues et des surprises. J'adore. Comme tous les 15 jours, ou presque, Raphaël, l'homme qui tombe au moment où on s'y attend plus. Histoire brève, bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
De quoi on parle aujourd'hui?
On va faire un petit florilège de morts insolites.
Tu me fais un peu flipper parce que tu m'as dit que tu me mettrais à contribution aujourd'hui.
Mais tu verras.
Ouais, j'adore l'idée. Surprise. Et puis en deuxième partie d'émission, nous irons rendre visite à Marie au labo du CFPPA. Marie qui prépare des escargots qui s'appelle les Nomades des Cévennes. Il y aura de la musique comme d'hab. Alors pas de prog du festival Mordor Fest parce que c'est la musique indé, voilà, et qui dit indé dit difficile à trouver.
C'est ça. Et après, on s'y serait pris un peu à l'avance, on aurait pu te filer des sons, mais comme on a fait ça au dernier moment, voilà.
L'essentiel, c'est d'en parler et on fera mieux l'année prochaine.
Voilà, exactement.
Toujours mieux. Il y aura de la musique quand même, comme d'hab, et on commence, vous le savez, par l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ça m'a passablement énervé ce matin. Valenciennes, bourgade du Nord, va-t-elle trop loin dans la vidéosurveillance? Une récente décision du gendarme des données personnelles qui a inspecté la commune en février dernier va dans ce sens. Caméra mal gérée, filmant des espaces privés, impossibilité pour les usagers d'exercer le droit d'accès aux données, absence d'études de cas préalables, etc. Alors que Valenciennes se présente comme un laboratoire en matière de vidéosurveillance, les conclusions de l'enquête communiquée à la commune en mai 2021 détaillent de graves dysfonctionnements. Après avoir pointé la disproportion du système mis en place, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a donc adressé un avertissement à la ville, pressée de mettre son dispositif en règle, et qui avait 2 mois pour exercer un recours devant le Conseil d'État. Depuis 4 ans, le maire UDI, Laurent Degalex, un proche de Jean-Louis Borloo, assume un virage techno-sécuritaire et revendique la transformation de Valenciennes en modèle de Safe City, une ville multipliant les dispositifs technologiques censés limiter les dangers dans l'espace urbain. En 2017, démarchée par l'entreprise Huawei, la ville a même accepté de se faire offrir, tenez-vous bien, 240 caméras dernier cri par le géant chinois. Valeur du cadeau ? Plus de 2 millions d'euros. Pourtant, l'entreprise est soupçonnée d'espionnage aux États-Unis et aux Pays-Bas, et elle aurait contribué à l'élaboration d'un système de reconnaissance faciale utilisé pour réprimer les Ouïghours au Xinjiang, après une enquête du Washington Post et d'IPVM. Elle s'est aussi ainsi offerte une vitrine française pour ses technologies de pointe. Alors, il y a 2 points qui interrogent depuis les défenseurs des libertés publiques. L'utilisation potentielle des données par Huawei, la mairie assure que le géant chinois n'aurait pas accès directement à ces informations. Bah tiens. Et les logiciels de reconnaissance faciale, une technologie illégale en France, mais bel et bien installée sur ces caméras offertes. La mairie affirme que ses agents n'utilisent pas ces fonctionnalités. Ah bon? Ah, elles vont bien nos libertés en ce moment en France. Allez, on se retrouve dans un instant, on part au Mordor.
Oh,
Boogie Belgique, Piccadilly tout court. De retour en plateau avec Quentin, notre cher Raphaël est toujours là. T'interviens quand tu veux, Raphaël, si t'as des questions.
Je me sens libre, ouais. Malgré la censure dont je fais l'objet pas de temps en temps.
Tu m'étonnes. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'irais encore plus loin en ce qui vous concerne. Le Mordor Fest, c'est les 13 et 14 août prochains. Alors, quand on arrive sur votre site, mordorfest.fr, on va en parler tout de suite. Ça commence par un communiqué. Alors, c'est pas gaieté de cœur, mais le pass sanitaire sera de la partie cette fois-ci. Comment et quand vous avez pris la décision?
Et ouais, alors, bon, on commence pas par le meilleur truc pour le festival, mais
non,
bon,
mais comme ça, c'est fait.
Voilà, c'est fait. effectivement, comme beaucoup de festivals, cette année, on a été confronté à l'annonce de notre cher président un peu au dernier moment. Donc c'est une annonce qui s'est faite au dernier moment, donc nous la décision a été très compliquée d'un point de vue éthique aussi pour nous. Pour revenir un peu en arrière, en mois de mai, fin mai, quand on a décidé avec tous les membres de bureau de faire le festival cette année, on était conscient de la crise sanitaire dans laquelle on vit, car nous sommes en guerre, tout à fait. et donc on s'était mis d'accord sur ce qu'on allait faire et ce qu'on ne ferait pas au festival. Et donc le pass sanitaire était éthiquement pour nous quelque chose qui n'était pas possible, et on était resté sur cette décision. Voilà, donc le temps avancé, on a réussi à organiser le festival malgré toutes les embûches, et d'un seul coup on nous annonce le pass sanitaire. On s'est dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on avait pas mal avancé l'organisation, enfin même bien avancé, que ce soit la prog, la recherche de terrain, etc., tout ce qui est complexe pour faire un festival. Et on s'est retrouvé là un peu comme des cons, malheureusement, à se dire bon, on fait quoi? On annule? Est-ce qu'on suit notre éthique, nous, et on annule, ou qu'est-ce qu'on fait? Après, on a plutôt pris la réflexion à se dire, en fait, le festival, on le fait pas pour nous. Même si c'est un plaisir pour nous, ça émane d'un plaisir de la musique, en règle générale, pour faire ce festival. Mais on le fait pour les festivaliers. Donc, on a décidé de créer une petite démocratie numérique en demandant l'avis à nos festivaliers. Déjà, savoir eux qu'est-ce qu'ils ont pensé. Donc, on a mis en place un petit formulaire assez simple, avec un petit communiqué où on expliquait notre avis sur le pass sanitaire et s'ils étaient pour ou contre de venir au festival avec le pass sanitaire. Voilà, parce que alors, c'est d'autant plus important pour nous de savoir si les gens vont venir ou pas malgré ce pass sanitaire. Parce que pour nous, la jauge est très importante. Notre financement, enfin, comment fonctionne l'association, c'est en autofinancement total, en autogestion. Et en fait, on n'est pas subventionné, on n'a pas de sponsor privé, on n'a rien. Ça, c'est une volonté de notre part. Et donc, en fait, tout est calculé par rapport à la jauge. C'est-à-dire, nous, notre budget sur le festival, si on ouvre à 400 personnes, en gros, il nous faut 400 personnes pour vivre. Et donc ça nous met en porte-à-faux à se dire il va y avoir des gens qui sont réticents, on les comprend tout à fait, chacun pour leurs raisons, et ça on le respecte, c'est important. Mais à se dire s'il n'y a que 100 personnes qui viennent, l'assaut concrètement, elle n'existe plus après, quoi. Donc c'était un risque.
Il faut savoir, l'année dernière vous aviez annulé.
Ouais, on avait annulé.
Et
ouais.
Forcément, les conséquences pour l'assaut, comme tu le dis, c'est terrible.
C'est ça. Alors l'année dernière, on s'y est pris bien en avance pour l'annulation, donc on avait bien anticipé, donc on n'avait pas de frais engagés, etc. Donc ça allait. Au final, on a fait l'année à zéro. Mais voilà, cette année, on engage des frais, forcément, et donc il faut être sûr de nous revenir à l'équilibre, et donc il nous faut nos festivaliers, et puis parce que on fait le festival pour eux, et donc il faut qu'ils soient là aussi. Donc voilà, en majorité, à 75%, les gens ont répondu positivement, avec des messages vraiment chaleureux, donc on tient tous à les remercier, vraiment, même ceux qui veulent pas venir nous ont laissé la plupart des messages assez chaleureux et compréhensifs, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, la plupart sont prêts à jouer le jeu, entre guillemets, parce que voilà. Et donc voilà, c'est cool. Et on tient à les remercier en tout cas du soutien qu'on a eu par rapport à ça. Et globalement, ce qui est revenu, c'était s'il vous plaît, faites le festival. En gros, on en a besoin, quoi. Mmh. On a besoin d'avoir des espaces un peu de liberté comme ça où on peut s'éclater sur un week-end. Et voilà.
La culture à tout prix, alors. on s'est un peu parlé avant de prendre l'antenne, hein, quelque part en Lozère, c'était l'idée. Il y a deux ans, c'était à Chamballon. Ouais. Cette année, c'est Nazbinal. Ouais. Et donc, je t'ai dit, ah, c'est une bonne idée de faire un festival itinérant. Et tu m'as dit, non.
Voilà. Ouais, en fait, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, votre festival, il change de lieu chaque année. Parce qu'on ne fait pas que le festival. Le Mordor Fest ne fait pas que le festival. On fait, dans une période normale, on fait pas mal de concerts aussi avant le festival, ce qu'on appelle des before. En fait, on commence la saison des concerts en janvier et on fait des concerts un peu partout en Lozère. Parce que le but de l'asso, c'était de promouvoir et diffuser vraiment la musique indépendante et de la faire découvrir sur tout le territoire lozérien, donc dans des salles des fêtes, que ce soit à Lingue par exemple, à Mende, au Sillon, à Marvejols, voilà, faire venir un peu du monde. Et donc là, on bouge beaucoup effectivement. Par contre, pour le festival, on souhaitait trouver un lieu où on puisse s'implanter à long terme, mais ce qui n'est pas facile, très très compliqué. Et on a trouvé cette année, c'est un peu tombé du ciel, donc on vous donne rendez-vous à la Grange du Déroc, donc à la cascade du Déroc. C'est sur un terrain qui appartient à Camille Sauvage, qui est une personne vraiment super. On a fait une très très belle rencontre, qui est en fait un grand terrain juste au-dessus de la cascade, c'est magnifique, et sur lequel il y a une grange qui est installée. À l'avenir, il va en faire une salle de concert et un petit restaurant, enfin, ça va être super. Pour l'instant, il y a une petite guinguette où on y mange très bien. Et voilà, donc lui était ravi de nous rencontrer. Enfin, voilà, ça a été une super rencontre entre lui et nous. On a vu les mêmes motivations. Et donc voilà, donc ça s'est fait. Enfin, ça va se faire.
Des valeurs communes. Alors, Mordor Fest, évidemment, le lien avec le Seigneur des Anneaux est là. Comment est né ce festival et pourquoi le Mordor et pourquoi pas la Comté Festival ou l'Isengard Fest?
Tout à fait, ou le Hobbit Fest.
Ou le Hobbit Fest.
Tout ouais. à fait. Alors, c'est vrai que c'est une référence à Tolkien, même si on apprécie à peu près tous dans l'asso l'œuvre de Tolkien. C'est pas vraiment une référence en fait à Tolkien. C'est un peu un gimmick qui est là depuis des années et des années dans la musique alternative et indépendante sur la Lozère. On a un peu une légende d'ailleurs par rapport à ça, sur le site c'est un peu expliqué. Mais la Lozère, c'est un territoire qui est assez reculé, surtout quand on y vient l'hiver par exemple, comme la brume ce matin qu'on a eu sur le Causse pour venir, et il y a un côté très Mordor là-dedans. Et en fait, c'était un peu une blague au début avec les collègues de Montpellier, de Lyon, etc. Et c'est resté, le Mordor, on trouvait ça drôle, et donc le Mordor Fest est né comme ça. Alors en fait, il est né, il n'est pas né d'un seul coup comme ça, il n'est pas tombé du ciel. Ça vient de des années et des années de musique alternative et indépendante aussi en Lozère. Ça part vraiment de entre autres, de la cave de Chanet, qui était qui était là une cave qui a duré pendant 10 ans chez un collègue, Pasquale, qui fait partie aussi du Mordor, et qui, au bout de 10 ans, qui a dû lâcher la cave parce qu'il a déménagé. Il a voulu fêter ses 10 ans de groupes indépendants du monde entier qui sont venus jouer chez lui, dans sa cave. Et c'était la vraie bamboche. Et il s'est dit, je veux marquer le coup. Et en 2018, en 3 mois, on a monté un petit festival à Chamballon pour fêter ça. Ça devait être un one shot et on a fait, c'était un peu à l'arrache, mais ça a duré 3 jours. Il y avait une centaine de personnes, c'était surtout les copains des copains. Et à la fin du festival, on s'est dit mais peut-être qu'on pourrait s'organiser proprement et faire une vraie asso, faire un vrai festival et promouvoir cette musique qui nous tient tant à cœur. Parce qu'il y a énormément de groupes et voilà, et c'est né comme ça.
Alors, justement, si t'en parles, festival de musique indépendante, on peut y mettre beaucoup de choses.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire et comment tu l'as défini, ce terme de musique indépendante?
Ouais, c'est pas évident, hein. On hésitait beaucoup, même nous, sur la musique alternative ou indépendante, mais le mot indépendant nous correspond beaucoup, comme j'expliquais, parce que c'est dans nos vies personnel, éthiquement, tous dans l'association, on aime beaucoup ce terme d'indépendance et le faire par soi-même et prouver qu'on peut le faire par soi-même, monter les choses sans avoir besoin forcément d'autres personnes, même si on en a toujours besoin, avec tous les bénévoles, toutes les personnes qui nous soutiennent. Je digresse un petit peu là, mais je reviens. Donc oui, sur la musique indépendante. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui ne sera pas ancré forcément dans un dans quelque chose de préconçu, de carré. Déjà, que ce soit au niveau du style, par exemple, on ne va pas forcément aller chercher quelque chose qui veut absolument coller parfaitement à un style pour faire du réchauffé. On aime les choses qui soient sincères et qui viennent du cœur quand on fait la musique, sans forcément s'arrêter sur un style. Et surtout, c'est des personnes qui vont soit s'autoproduire, soit être dans des petites maisons de prod totalement indépendantes aussi, qui n'auront pas beaucoup de visibilité. Et nous, on veut vraiment apporter une visibilité à toute cette musique. Donc effectivement, musique indépendante, c'est un peu fourre-tout, mais j'ai envie de dire, c'est une musique actuelle et vivante, dans le sens où elle est vivante parce qu'elle n'est pas réchauffée, elle n'est pas revue, et c'est un peu essayer de... C'est la musique qui te met une claque à chaque fois parce que tu dis, mais j'ai jamais écouté un truc comme ça.
Voilà. En tout cas, c'est tout à fait clair. Alors, justement, la prog, comment vous la faites, et puisqu'ils sont indépendants et pas connus?
Et voilà. Alors, ça, on a la chance dans l'assaut. C'est surtout dans le bureau, c'est Delpi et Dodus qui s'occupent beaucoup de la prog. Parce qu'on va dire, ils ont baroudé énormément la scène, que ce soit dans d'autres assos, parce qu'ils sont aussi musiciens comme Dodus, qui a joué dans Porn, un groupe losérien, qui joue en ce moment dans Inspeccable, enfin voilà, plein. Donc ils ont un background énormément, donc beaucoup de connaissances aussi, à force de faire jouer des groupes dans d'autres assos et tout ça. Et c'est un milieu où après, ça se connaît, il y a des nouveaux groupes qui sortent, ah tiens, ça c'est bien, des connaissances, des musiciens qui jouent dans d'autres groupes. Voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et aussi, cette année, on a reçu beaucoup de demandes de la part des groupes. Forcément, ils ont envie de jouer, ils ont le couteau entre les dents, et on les comprend, et on a reçu, 90-100 demandes cette année. Et voilà, quoi. Donc après, on essaye de sélectionner au mieux et de contenter tout le monde, mais c'est pas évident.
Il y a quand même une prog, il y a 10 groupes sur le week-end, plus du off. Hein.
Ouais, c'est ça. Il y a, en fait, il y aura donc 5 groupes principaux, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce terme, parce qu'on aime l'horizontalité des choses. c'est très important chez nous. Mais on a donc 5 groupes par soir, plus des groupes qui vont faire des interscènes. Donc pendant les champs de plateau, il y aura une plus petite scène où il y aura toujours des concerts. Donc on a à peu près, je crois, sur le week-end, 15, peut-être 20 artistes. Voilà. Cette année, on avait dit qu'on n'en faisait pas beaucoup. On voulait faire pas trop de groupes parce que c'est du boulot, et comme chaque année on se retrouve encore avec je sais pas combien de groupes, mais bon, c'est voilà. Donc ouais, il y a un petit peu de tout, la prog elle est assez sympa, vraiment.
Unspeakable, t'en as parlé tout à l'heure, ce sera le vendredi.
Ofoam,
Vertex, Mauvaise Surprise et Courcial X Co-Game.
Voilà, c'est ça.
J'adore les mots que je viens de dire, puisque je n'ai absolument rien compris.
C'est très bien, mais c'est pour ça qu'il faut aller écouter. Et mais tous ces groupes, pareil, dans les styles, il y a de tout et ils sont tous différents, donc c'est vraiment cool pour l'oreille.
Et pour être tout à fait complet, le samedi, ce sera
Sunocine,
Judas Romantique, Vautour, Jessica 93 et Poutre. Mais il y a tout sur votre site, mordorfest.fr. Vous avez une identité graphique aussi. Alors, comment ça se passe? Qui fait? Qui bosse?
Alors, là-dessus, moi, comme je suis graphiste de métier, je m'y suis un petit peu attelé, même si on a tous bossé dessus aussi, dans le sens où je suis la petite main exécutante, mais tout le monde donne un peu son avis. Voilà, ça fonctionne comme ça. On a un peu chacun nos rôles dans le bureau de l'asso pour essayer d'être le plus efficace possible. Et entre autres, moi, je me charge un peu plus de la com et de la créa graphique et tout ça. Et voilà, c'est venu un peu comme ça, quoi. Ça, voilà, cette année, l'affiche, elle a été créée plus par... c'était plus mon petit délire personnel que j'ai partagé. Ils ont dit ok, c'est bon, ça marche, on y va, quoi.
Ouais, mais justement, parlons, puisque t'auras pas fait la route pour rien. AFA Multimédia, ça c'est une boîte de prod dans laquelle tu bosses.
Ouais, c'est AFA Multimédia, donc c'est l'entreprise que j'ai avec mon collègue Aurélien, qui fait partie de l'asso aussi. C'est une agence de communication qui est installée en Lozère depuis, je sais pas, plus de 15 ans, je crois, maintenant. Avec laquelle on fait beaucoup de communication, que ce soit des sites web, des applications, de l'identité visuelle, de la photo, de la vidéo, voilà.
Ça représente un budget, tout ça? Alors le budget du Festoche, tu disais une jauge à 400. Voilà, faut dire que c'est 30 balles le pass pour les deux jours. Ça veut dire si tu voilà 3€ le concert à peine.
C'est à peu près ça.
Voilà, donc le budget, combien ça représente?
Alors, donc oui, pour revenir au prix, le budget après, pour nous, ce qui est super important, c'est que ce soit accessible en fait à tout le monde. Cette année, on a un petit peu augmenté le prix parce qu'on a plus de frais sur le nouveau terrain, etc. Et on arrive à un prix normalement qui ne bougera plus maintenant sur 30€. Et on veut que ce soit vraiment accessible à tous. C'est super, super important pour nous. Uh-huh. Même les toutes petites bourses, on veut qu'elles puissent venir et s'éclater au festival. C'est 2€ la bière aussi, artisanale. Voilà. Et donc, le budget du festival, cette année, on est environ sur 25 000€. Et tout sera seulement financé par les entrées et la bière. On a la chance et nous remercions notre public. On a un public qui aime beaucoup boire de la bière. Ça fait plaisir. Voilà, et on le remercie. C'est grâce au fait d'aimer boire de la bière qu'on peut arriver à zéro. Après.
Pas de festoche sans bénévoles aussi.
Exactement. Ouais, bah carrément. Enfin, toujours un grand merci à tous les bénévoles et même pas que les bénévoles, toutes les personnes qui nous soutiennent énormément. Le fait de choisir un financement, un autofinancement, c'est très difficile. Les groupes font l'effort. Ils savent qu'ils ont des cachets qui sont plus petits. Ils font l'effort de venir pour la petite idéologie qu'on essaye de mettre en place. Uh-huh. Même les techniciens qui viennent, tout ça, tout le monde fait l'effort et ça fait plaisir. Et les bénévoles, bien sûr, ils sont là tout le temps à nous aider. C'est vraiment top. Donc peut-être qu'on va relancer un petit appel aux bénévoles cette semaine. On va faire un point un petit peu pour voir le nombre de bénévoles qu'on a. Mais on en a toujours besoin, donc faut pas hésiter. Hein, si là, il y a des personnes qui, même si on lance pas l'appel tout de suite, qui veulent se proposer, c'est avec grand plaisir. On a besoin de monde pour monter le chapiteau, parce que ça sera sous chapiteau cette année aussi. Voilà, pour mettre en place tout le terrain, parce que le terrain est à nu, donc il faut tout faire. Voilà, pour tout faire, même le jour J du festival.
N'hésitez pas à aller sur le site mordorfest.fr. Deux infos pratiques: prenez du cash parce que vous prenez pas la carte bleue.
Exactement.
Ça, faut pas.
Voilà.
Et ça se passe à 4 km de Nazbinal, à la Grange de Roc. Il y a évidemment un camping.
Oui, ouais, bien sûr, un camping sur place.
Quand on boit de la bière, faut pas déconner.
Et voilà, non, on est d'accord. Le paysage est vraiment beau, on peut vraiment profiter. Ça, c'est top. Donc, ouais, il y a un grand parking pour déjà se garer facilement sur le terrain. Et ensuite, un grand camping en herbe. Voilà. Par contre, attention, il n'y a pas d'ombre. Donc, prévoir la crème solaire et les casquettes. Et surtout, il fait froid sur l'Aubrac la nuit. Donc, prévoyez aussi les petits suites. Et les grosses doudounes même. Pourrait même avoir de la neige, c'est possible. Franchement, c'est possible. 13-14 août sur le break de la neige, ouais. Ça m'étonnerait pas.
On serait plus à ça près, hein,
c'est clair.
Au niveau des choses qui nous étonnent.
Oui, voilà.
La soirée, c'est 16€. Le pass de jour, c'est 30€. Ça se passe donc les 13 et 14 août prochains. Les infos, les résas, la proc, c'est sur mordorfest.fr. Je mets évidemment le lien sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Quentin.
Ben, merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir.
Le plaisir est partagé. Ça fait de la route pour venir nous voir quand même. Voilà. Du coup, c'est toujours agréable. Raphaël, je te réveille ?
Non, pas du tout.
Tu sais quoi ? Je suis en train de me dire que je vais passer un morceau avant ta chronique, puisque comme j'avais complètement soit oublié, soit pas prévu que tu sois là ce matin, je n'ai pas ton générique. Donc on écoute d'abord un petit morceau et puis on revient pour ta chronique chocolat. Le morceau s'appelle Interlude. Chocolat, interlude. Il m'a réveillé ce matin à 8h25. Voilà. Raphaël, ça va?
Oui, ça va.
Histoire bref, t'es chaud?
Ça va, je suis chaud.
Ouais, jingle, on y va.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein? Histoire bref, histoire bref.
Monsieur de Paris, nous sommes d'accord que si vous m'invitez périodiquement pour votre matinale du lundi matin, c'est pour que je puisse vous donner des clés de compréhension du monde en apprenant quelques grands événements du passé, c'est pour que je puisse éclairer votre lanterne sur des sujets brûlants de l'actualité, c'est pour égayer vos sombres matinées où vous errez dans les studios de Radio Bartas les lundis matins comme une âme en peine en quête de sa prochaine nuit de sommeil.
C'est tout à fait ça.
C'est pour mieux connaître les grands hommes qui, par leurs exploits, ont traversé les siècles. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Nous allons parler de grands hommes, mais dont nous nous souvenons aujourd'hui plus parce qu'ils ont été frappés par des morts que l'on pourrait qualifier d'insolites, voire parfois de facétieuses. Prenons l'exemple d'Échille, si vous le voulez bien. Échille, que vous connaissez sans doute comme étant l'un des plus célèbres tragédiens grecs du 5e siècle avant notre ère, auteur notamment de la pièce « Les Perses », qui nous a offert par exemple quelques précieux renseignements sur la bataille de Salamine, à laquelle il participa réellement, et dont, dont vous vous rappelez bien sûr de la date, puisque nous en avons déjà parlé lors d'une précédente émission.
Ouais, mais je me souviens surtout de son talon, le talon d'Échille.
D'accord. Et la date alors?
Je sais plus.
Pas de date.
404... Attends, tu me réveilles moi lundi matin.
480 avant Jésus-Christ.
Évidemment, je l'avais sur le bout de la langue.
Vous ne vous en souvenez pas. À croire que vous ne m'écoutez jamais quand je vous parle. Je vais finir par croire que vous ne m'invitez ici que pour admirer mon physique.
Non, pour que tu combles un peu les blancs.
Bref, Échille a connu une mort tragique qui le frappa en 456 avant Jésus-Christ. Savez-vous, monsieur de Paris, comment est-ce qu'il a péri?
Non, mais tu es là pour m'apprendre des choses.
Je vais vous aider avec trois propositions que voici.
Ah.
Il glissa sur une flaque d'huile d'olive et se brisa la nuque en tombant.
Ah, c'est... Ouais.
Il s'est fait fracasser le crâne par une tortue tombée du ciel. Il se prit une mouette qui lui transperça l'œil gauche avec son bec. Laquelle?
Ah, j'hésite entre la 1 et la 3. Vas-y, j'ai l'huile d'olive.
Oui, tout à fait, puisqu'en fait, il est mort d'une tortue qui lui est tombée sur la tête.
C'était la deuxième, non mais sérieux.
Vous allez me demander comment cela est possible, puisque monsieur de Paris, je sais que vous savez que les tortues ne volent pas. Mais il semblerait qu'en Sicile, lieu où se déroula le drame, les rapaces ont pour habitude de se saisir des dits reptiles et de les lâcher au-dessus des rochers pour briser leur carapace. La légende dit que l'un de ces rapaces aurait confondu en 456 le crâne chauve d'Échille avec un caillou. Tragique décès.
Incroyable.
Autre exemple connu d'un philosophe grec dont la mort est finalement plus connue que l'œuvre elle-même, bien qu'il soit réputé pour être le second fondateur du stoïcisme au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de Chrysippe de Sicile. Ce dernier est, selon son biographe Diogène Laërce, littéralement mort de rire. La question que je vous pose, monsieur de Paris, est la suivante. Savez-vous quelle fut la cause de cette hilarité?
Une de mes blagues?
Je n'ai pas en proposition celle-ci. Alors, plusieurs propositions à nouveau. De voir sa femme se vautrer dans la cuisine.
Ah ouais.
Il a appris comment était mort Échille ou en voyant un âne ivre essayer de manger des figues.
Ah, pareil. La mort d'Échille.
Et non. Il est mort en voyant un âne ivre essayer de manger des figues.
J'adore.
Alors là, je fais un appel à témoins. Je demande à tous ceux qui possèdent des ânes ou qui parcourent les chemins de Stevenson de bien vouloir faire boire un bourricot pour tenter de lui faire manger des figues et voir si c'est vraiment drôle. Si ça l'est, je vous invite à envoyer une vidéo à Radio Bartas qui essaiera de la transmettre à Bernard Montiel à la manière des plus belles heures de vidéogag. Si ce n'est pas drôle, la station s'engage solennellement à vous rembourser l'alcool et les figues ainsi dépensées. Nous pourrons prélever l'argent sur le salaire de monsieur de Paris qui s'est posé en parrain de l'opération. Fais boire ton âne, je te dirai si c'est drôle. Vous avez vu monsieur de Paris, avec une telle programmation et de tels engagements, je ne vois pas comment le CSA pourrait vous refuser vos prochaines subventions.
Incroyable.
Enfin, terminons cette petite balade dans les morgues de l'Antiquité par Hypatie d'Alexandrie, célèbre mathématicienne et philosophe du 5e siècle de notre ère. Cette néoplatonicienne d'origine grecque, mais qui vécut en Égypte, fut la victime de l'obscurantisme religieux de son temps, puisqu'elle fut assassinée par des moines chrétiens qui lui reprochaient de pousser le préfet d'Égypte à s'en prendre à l'évêque d'Alexandrie. Mais savez-vous, monsieur de Paris, avec quelle arme redoutable ces moines décidèrent-ils d'exécuter Hypatie d'Alexandrie?
Du coup, t'as des propositions?
Bien sûr, j'ai des propositions merci, pour venir en aide, parce que déjà les dates de Salamine, ça vous revient pas, alors je vous appuie là-dessus encore une fois. Alors, trois propositions. Elle fut lacérée par des coquilles d'huîtres tranchantes.
Oh là là.
Lapidée avec du pain dur ou étouffée dans du fumier.
Non mais sérieux, alors si ça sort de ta tête, tout ça, non mais franchement. Hein, c'est déjà, bon les trois sont... Allez, on va prendre le pain dur.
Pardon, le ?
Le pain dur.
Le pain dur. Et non, c'est un 0 sur 3, monsieur. Elle a été lacérée par des coquilles d'huîtres tranchantes.
Ah là là.
Quelle mort. Et bah, oui.
Incroyable, quoi. Mais ils ont de l'imagination tout autant que toi.
Mais dès qu'il s'agit d'exécuter des gens, l'humanité a toujours fait preuve de grande imagination.
Tu m'étonnes.
Donc ce furent bien des coquilles d'huîtres qui furent choisies pour cette mise à mort et qui choqua tout l'Empire romain d'ailleurs. Si cette histoire vous intéresse, ou si vous nourrissez de funestes projets visant à éliminer votre voisin avec une arme originale qui devrait dérouter la maréchaussée, ou si encore vous cherchez une façon insolite de recycler ce matériau trop souvent jeté sans sommation après consommation, je vous invite à regarder le film espagnol Agora, tourné en 2009, qui raconte la fin de la vie d'Hypatie d'Alexandrie.
Ah.
Alors, vous en voulez encore, monsieur de Paris ?
Bah, si t'en... Allez, si t'en...
Eh bien, il faudra attendre que vous me réinvitiez la prochaine fois, car la liste des morts incongrues qui ont émaillé l'histoire est encore longue. Nous nous pencherons alors sur toutes ces malheureuses personnalités médiévales dont nous nous souvenons aujourd'hui, plus par leur mort que par leur vie. Je vous promets alors de la violence, de la maladie, du sexe et même de la gastronomie. Alors, à la prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup, Raphaël. C'était super aujourd'hui.
Ah, ça, d'habitude,
ça, ça change.
Je vous ai épargné, c'est pour ça, mais c'est pas moi. Enfin, il faut que le public sache.
Alors, tu sais quoi ? On a eu des retours. Tu me demandes si on a des retours sur ta chronique. Oui, on a des retours. Les auditeurs ne comprennent pas. Tous les 15 jours, mais des fois, il est là toutes les semaines. Des fois, il n'est pas là pendant 3 semaines.
Ça dépend de la censure, en fait. Ça dépend si vous avez eu le temps de récupérer aussi.
Et c'est surtout auditeurs et auditrices qu'on est contre la routine. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce boulot, en tout cas on essaye. Allez, on part au CFPPA, et vous allez comprendre pourquoi.
Bon, alors quand on retourne là, tu vois, on est au laboratoire du CFPPA. Dans ce truc, on est fringué, je crois qu'on est bon pour une attaque ici. Pas de soucis.
Ça va, bien.
Bonjour. Et du coup, voilà, on va aller voir Marie, qui lui fait des escargots. Ça s'appelle Nomade des Cévennes.
Bah allons-y gaiement, ma foi.
Allons-y gaiement. Alors on va passer au nettoyage de bottes. Ah, on est totalement désinfecté. Et c'est parti.
Là-bas, je t'avais dit quoi, deuxième porte à gauche ?
Oui, j'ai une mémoire.
Là. Salut.
Salut Marie.
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va. Je viens un peu dans le
rush.
Oui, bonjour.
Petit corto, Marie, c'est le nouveau technicien de la radio.
C'est le nouveau quoi ?
Technicien.
Ah, regarde. Je touille. Merci. Voilà, je cuise.
Là, ça y est, tes escargots, t'en as mis combien là ? Tu sais à peu près ?
J'en ai mis 45 kilos.
45 kilos ?
Du coup, 45 kilos, ils font à peu près 4-5 grammes chacun, quoi. Enfin là, c'est un peu tout mélangé, quoi. C'est pour faire des genre du pâté, si tu veux. Des trucs à tartiner.
Et là, tu les cuis avec quoi, là ?
Avec des carottes, des poireaux, du thym, du sel, du poivre et un peu de vin blanc. Et voilà. Et après, mais là, en fait, si tu veux, ils sont morts déjà l'année dernière. Et ils ont été décoquillés, blanchis, surgelés. Et là, on revient faire la session peau, quoi. Donc, ils font... C'est juste une pré-cuisson, si tu veux. Parce qu'après, ils restent dans le pot quand tu les passes, tu sais, à l'autoclave. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
On va les voir en fait.
Et ben, la grosse machine, là, pour les stériliser, si tu veux, les peaux, ils restent deux heures dedans. Donc, il n'y a pas besoin qu'ils soient cuits, quoi. Je ferme ?
Ouais.
Tu me permets ? Parce que déjà que ça a du mal à partir à bouillir, tu vois, ça fait une heure et demie qu'on est là.
Ouais.
Ça bouille toujours pas.
Bon, et comment ça s'est passé pour toi cette année bizarre ?
Bah, un peu chiant, quoi, comme tout le monde. Après, j'ai... Enfin, ça m'a pas impacté, j'ai l'impression, au niveau vente, quoi, parce que on a quand même vachement... Enfin, moi, je vais en local, et les gens, ils ont quand même mangé. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Moi, c'était plus, les aléas climatiques, les oiseaux, les petits rats. Si, l'année dernière, ça a été pas très bon, ouais.
Les rats, ça peut faire du dégât.
Les rats, il y a des campagnols. Après, les campagnols, bon, ça mange pas des escargots, mais ça fait des petits terriers partout, enfin des petits tunnels. Du coup, après les musaraignes, elles passent dedans, après elles mangent les escargots. Ouais, c'est bon. Tu veux, l'hiver d'avant, 2019-2020, il n'a pas été froid. Je pense que ça a permis à toutes ces petites bestioles de survivre plus facilement. près d'un autre côté. Moi, ça m'a permis d'avoir des escargots, les fonds de parc, là, ceux qui étaient nés, ceux, ils arrivent toujours à se reproduire un peu, qui n'étaient pas morts. Donc c'était bien aussi. Même si c'est pas l'idéal, quoi. Parce qu'après, quand tu sèmes, il y a des petits partout et ils te bouffent tout, quoi. Mais bon, ils m'ont sauvé l'année, quoi, ceux-là, finalement.
Et si là, rappelez-nous, que tu le dis, il y a déjà 2 ans à la radio. Ça fait 2 ans déjà.
Je sais plus, ouais. Peut-être où. Longtemps.
C'est vrai.
C'était jadis.
Ça fait combien de temps maintenant que tu fais les escargots?
Depuis 2018.
T'es venu directement ici au CPPA
ouais.
ou là-bas
oui, oui.
Ça coûte combien comme ça des sessions ici
Là, c'est. Bah écoute, c'est écrit sur la porte là-bas, tu regardes en sortant, je crois que c'est. Je crois que c'est 100 euros hors taxe, quelque chose comme ça. Ouais.
Ouais, c'est quand même largement abordable, en fait.
Ah oui, oui, il est vachement. Ouais, ouais, non, il est pas très cher. Hein. Moi, je sais... Enfin, après, j'ai pas de comparaison. Mais non, non, il est. C'est quand même super abordable. Après, c'est pub, c'est un établissement public, donc je pense que c'est aussi pour ça que le prix reste abordable. Mmh. Je crois que c'est 100 euros hors taxe. Tu me mets de doute maintenant. Ouais, ça se trouve, c'est 200. Enfin, je veux dire, c'est pas 1000 euros la journée, quoi.
Ils sont où les élevages?
Mes élevages sont au bord du Tarn. Ils sont cachés. Personne ne les voit.
Il y a des voleurs.
Non, il n'y a pas des voleurs, mais j'ai pas trouvé mieux comme terrain. Donc, ils sont en bas d'une châtaigneraie, il faut 4x4 pour descendre, ou des jambes. Les jambes, c'est pas mal. Mais du coup, il n'y a pas trop de passage, et c'est vrai que ça se voit pas. Après, dans ce sens-là, ça m'arrange. Que pas. Tout le monde qui passe dedans. Après, des voleurs, moi, on me l'a déjà dit, ça. Il y a des gens qui m'ont dit oh, « on va vous en voler ». En même temps, je peux pas les compter, quoi, si tu veux. Donc, je sais pas. C'est vrai que l'année dernière, du coup, ma perte, ça se trouve, j'ai eu des voleurs. Bon, enfin, ça m'étonnerait. Enfin, les gens qui volent des... Si jamais on volait des escargots, on vole des escargots. Je sais pas, tu imagines, t'es fan d'escargots, t'as envie d'en voler. Tu vas voler quoi ? 10 douzaines, 20 douzaines, mais tu ne voles pas. Moi, l'année dernière, j'en ai mis 80 000. Tu ne voles pas 80 000 escargots. Ou alors, après, les voleurs, parce que ça se fait, hein, mais c'est des gens qui vont voler chez toi des escargots déjà décoquillés, les peaux, les escargots déjà préparés, quoi. Et puis, eux, après, ils les font passer... Donc, c'est en général, j'imagine, un héliciculteur qui vole un autre héliciculteur. Mmh. Oui, c'est pas super toi, la personne lambda qui essaye de refourguer au marché noir des escargots. C'est compliqué, tu vois, comme truc.
Ils sont stockés dans quoi, du coup? Enfin, c'est...
Mes escargots?
Ouais.
Dans les parcs?
Ouais.
Eh bien, il y a... Ils sont donc... moi, je suis en bio, donc ils sont en extérieur. Il y a un filet à escargots. En fait, c'est un filet très, très fin, à maille très fine, donc ils ne peuvent pas passer à travers, qui est, je sais pas moi, à 40 cm du sol. Enfin, c'est planté dans le sol. Un filet, quoi, tout autour. Ça fait un carré. Enfin, un rectangle, précisément. Et en haut de ce filet, il y a 4 petites... on ne sait pas, des fils. C'est des conducteurs électriques. Enfin, c'est comme des fils, si tu veux. Sur 4 étages. Donc, tu as une terre, un plus, une terre, un plus. Donc, quand ils touchent une terre et un plus, ils se prennent un coup de jus et ils redescendent.
Donc, c'est genre... Ouais, c'est des enclos.
Hein ? C'est des enclos. Escargots, ouais, escargots, voilà. C'est des enclos escargots. C'est ça. Une prison à escargots.
Juste aux idées reçues, un escargot, ça va très vite.
Ça va quand même assez vite, ouais. Surtout quand ils ont décidé de tous s'en aller, qu'ils sont plusieurs, qu'il faut que genre 3-4 000 à vouloir décider de s'en aller, là, tu vois bien que finalement, t'aimerais bien qu'ils aillent moins vite.
Tu nous montres l'autoclave ?
Ouais, alors l'autoclave. C'est l'autoclave, donc ils en ont 3 ici, je crois, 2 petits et 1 grand. Voilà, t'as le plus petit, là. Donc dans le grand, je crois que tu mets 120 kg de produit, quelque chose comme ça, ou 180, je sais plus ce qu'il m'a dit Camille tout à l'heure, et dans le petit, 70 ou 75. Donc moi le but là cette fois c'était de remplir celui-là. Je sais pas s'il sera rempli, j'ai 1000 pots à faire, mais il y a des petits aléas de machines qui fonctionnent pas. Voilà, ah oui. Ça arrive. Donc voilà. Donc en fait c'est une grosse cocotte minute, en fait, où tu montes le produit en température et en pression. Donc moi je sais que pour les escargots, donc vu que l'escargot c'est réputé pas très stable, ils font un cycle, je crois que c'est 2 heures à 100. Je sais plus combien ils font, 110, c'est pas 110 degrés, mais 107 ou quelque chose comme ça.
Pour les stériliser.
Ou peut-être plus d'ailleurs. Pour les stériliser, oui. Parce qu'en fait, quand tu fais de la stérilisation maison dans, tu sais, l'espèce de ce qu'on appelle des stérilisateurs à la maison, en fait, c'est pas une stérilisation, c'est une pasteurisation. Ouais. Puisque tu ne montes jamais au-dessus de 100 degrés. Donc là, pour qu'elle monte, la température, on agit sur la pression.
Et alors, excuse-moi, tu disais, l'escargot n'est pas très stable, c'est ça que tu dis ?
Bah, c'est réputé pour être un produit qui a besoin d'un traitement thermique long. Comme je sais que la châtaigne, c'est aussi, a priori, c'est pas stable. Donc là, le but, c'est qu'à la fin de l'autoclavage, donc ici, ils font des tests de stabilité. Donc ils vont prendre de plusieurs pots. Ils leur font, il y en a qui vont mettre en étuve à 37 degrés, d'autres à température ambiante, d'autres un peu plus chaud, un peu plus froid. Et ils restent une semaine et ils vérifient à la fin que l'acidité, enfin le pH n'a pas bougé, qu'il n'y a pas de gaz qui s'est formé, etc., pour voir que le produit il est stable et que le traitement thermique a été efficace, c'est-à-dire que ça a détruit toutes les germes et bactéries.
Et après ça, ils te filent un papier qui atteste que c'est bon ou...
C'est ça. Bah, en fait, à chaque nouvelle recette, ils font un test de stabilité vraiment complet qui prouve que ta recette avec ce traitement thermique et ta façon de procéder, elle permet d'avoir un produit stable. Et ensuite, à chaque fois que tu reviens et que tu refais la même recette, par exemple, là, j'en fais à l'ail des ours, donc ça fait plusieurs fois que je le fais, ils vont juste prendre quelques pots échantillons pour voir que l'autoclavage a bien été un succès.
Et tu les tues où ?
Je les tue là. Ici. Mais là, il n'a pas à tuer, là. Ils sont déjà morts.
Ouais, ils sont déjà morts, mais si on peut parler.
Bah, en fait, je les tue ici, dans la même cuve. En fait, quand je les tue, je fais bouillir de l'eau, là. Donc, je ne sais pas combien de litres ça fait. Là, ça doit faire au moins 100 litres, 80-100 litres. Ils sont dans des filets où ils sont en train de jeûner. Et je les jette dans l'eau bouillante. Donc ça dépend combien on est à m'aider, hein, par 2-3 000 à la fois. Je les laisse 4 minutes, 4 minutes 30. Je les sors, après on les rince pour enlever, bah, parce que comme ils ont jeûné, c'est pas très propre, hein, y a tous les excréments, etc. Et après on les décoquille, un par un. On les pare, c'est-à-dire qu'on enlève l'hépatopancréas, le bout du tortillon. Après on les re-rince et après on les blanchit 20 minutes. En fait, c'est très long.
Fastidieux, ouais.
Voilà. Alors que sur les petits gris, ça, c'est des gros gris. Moi, je fais le petit gris. Tu n'as pas besoin d'enlever les pâtes au pancréas. Tu peux le faire cuire direct dans sa coquille et les gens le mangent comme ça. Tous les gros escargots, faut enlever les pâtes au pancréas, qui est quand même un endroit où ça accumule tous les métaux lourds.
Et justement, la question est peut-être stupide. Est-ce qu'on peut en faire en toute saison ?
C'est-à-dire les élever en toute saison ?
Parce que enfin, ça a besoin quand même d'humidité.
Alors, tu peux élever du petit gris en toute saison, même si l'hiver, je veux dire, logiquement, ils ne vont pas trop se reproduire. Après, avec le réchauffement climatique, tout est bizarre. Mais le gros gris, il est gélif. Donc, moi, il meurt l'hiver si je les laisse dehors. Enfin, ça, c'est la théorie. Hein. Dans la pratique, moi, là, j'ai une collègue, mais elle est à côté de Nantes, elle les a laissés dehors. Et puis...
Ils sont passés.
Bah, en fait, elle avait... C'était son choix. Enfin, si tu veux, elle les a ramassés, elle les a mis dans un petit parc plus petit pour pas qu'ils mangent après ce qui pousse ailleurs. Et puis voilà, ils meurent pas, tant mieux. Mais moi, les miens, je les ai mis dans le garage quand même pour me dire, et voilà, ils ont quand même plus de chances de survivre. Donc là, j'ai des fonds de parc. Après, survivre, t'as tout quand même vachement de mortalité. Là, ils hibernent depuis novembre, hein, donc ça fait long sans manger. Donc là, fin de semaine, faut que je finisse vraiment un petit bout de parc pour les relâcher. J'attendais qu'ils fassent meilleur et puis que j'ai le temps.
Il y a un surgélateur ici ?
Il y a un surgélateur, ouais. Je sais pas où il est rangé, mais il y a une espèce d'armoire. C'est comme une armoire, avec des étages. Et ça surgèle, donc ça descend à moins 40. Enfin, je sais pas, ça pulse de l'air super froid. Et ça te surgèle tout en quelques minutes, surtout faire des escargots. Bon, quand c'est des seaux que je dois surgeler, c'est plus long, mais ou des paquets d'escargots comme là j'ai mis à cuire. Mais si c'est des escargots en coquille ou quoi, ça va super vite. Ouais.
Voilà. Bien,
ouais. Bah après, t'étais jamais venu là ?
Jamais. C'est un grand.
En fait, là du coup, t'as le côté viande, donc là c'est animal, et de l'autre côté du couloir c'est végétal. Donc si tu fais de la soupe de légumes, ils vont te mettre là-bas. Si tu fais du pesto de l'ail des ours, c'est là-bas. Ici c'est tout ce qui est viande, enfin carné quoi. Donc là c'est tout ce qui est préparation, les gens qui vont faire des rillettes, des plats en sauce, voilà, etc. Et puis après, de l'autre côté là-bas, c'est l'atelier découpe. Donc ceux qui viennent pour faire du poulet sous vide, enfin des blancs de poulet, tu vois, ils découpent leur viande, ou ils découpent leur vache, et puis le lendemain après ils viennent là et ils font des plats. Etc. Et là, normalement, c'est la légumerie, donc c'est là où tu nettoies tes légumes. Et là, c'est le coin où tu fais la vaisselle.
Voilà. Et tu viens combien de fois par an ici au labo ?
Ça dépend.
De ta production ?
Ça dépend de ma production, ça dépend en quoi elle va passer.
Et 3 ans, si tu devais faire un bilan un peu de ton activité, t'es plutôt content parce que tu t'attendais à ça il y a 4 ans maintenant.
Ouais.
Est-ce que tu t'attendais vraiment à un truc comme ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va?
Bah écoute, ça va. Après, tu t'attendais, ouais, je m'attendais aux aléas climatiques, etc. Je m'attendais à trouver un terrain plus propice, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que moi, ça me pénalise parce que bah, pour faire visiter les parcs, c'est compliqué. J'ai pas l'électricité, donc je suis sur solaire, donc ça limite aussi. Pour agrandir, c'est pas l'idéal non plus. Tu es dans la forêt, il y a des oiseaux. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. Après, je suis très contente qu'on m'ait prêté ce terrain. Et y a des gens qui cherchent et puis qui trouvent pas rien du tout. Donc c'est quand même mieux que rien. Mais c'est vrai que si j'avais, tu vois des fois les prés là autour de Florac, tout plat, tu te dis, moi j'en veux juste un petit bout. Tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Enfin moi, 2000 mètres carrés, c'est bon, hein, un grand jardin quoi finalement. Mais ça reste l'accès à la terre, c'est compliqué.
Ça c'est sûr, en tout cas le message est lancé, c'est ton jardin.
Oui, le message est lancé, n'hésitez pas. Je suis là. Après j'achète, je loue, peu importe, mais sinon oui, en termes d'activité, bah moi je suis contente parce que c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire de pas avoir tout le temps les mêmes tâches à faire, d'être dehors. Je fais de la cueillette aussi, c'est sympa. Non, c'est bien.
Et pour finir, on peut te retrouver où ?
Tu peux me retrouver à la boutique des paysans qui est à côté du PMU, qui est fermée au PMU, mais la boutique est ouverte. Et puis l'hiver, là j'ai jusqu'à février, j'ai vendu devant le bouchon Cévenol tous les dimanches. Et après les marchés de Noël, ces trucs-là. Et là l'été, juillet-août, je fais le marché de producteurs le dimanche matin. Bah devant la maison des paysans là. Un petit marché sympa où il n'y a que des producteurs locaux quoi.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps.
Merci. Je vais m'y mettre.
À bientôt, Marie.
À bientôt, salut.
Salut.
Voilà, deux, trois petites choses. Les 13 et 14 août, le Mordor Fest. C'est donc à côté de Nazminal, à 4 km, à la Grange de Rock, pardon. Et Quentin a oublié de dire que c'était gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà, comme ça le message est passé. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve évidemment mercredi. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Elephant Stone. Le morceau s'appelle Photographe. Prenez soin de vous, à mercredi. Ciao. Needles to my heart. How did I lose track of who I am? To find me now here on my own with all